L'Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition de l'Esprit Public, au cours de laquelle nous nous efforcerons d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, avec Jean-Louis Bourlange, essayiste, avec François Bujon de l'État, ambassadeur de France, et avec Thierry Pech, directeur général de la Fondation Terra Nova. Nous commencerons par nous intéresser à l'état de la gauche. Après l'annonce mi-juin de l'annulation de l'université d'été du Parti Socialiste, un dirigeant du PS cité par le journal Le Monde avait déclaré préférer une rentrée dispersée au désordre. Dispersée, la rentrée politique l'a été, s'est ajoutée à une opposition interne exacerbée par les mouvements hostiles à la loi travail, la candidature des anciens ministres frondeurs, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, qui viennent grossir le nombre des prétendants socialistes, qu'ils soient ou non décidés à passer par la case primaire. La position de François Hollande paraît toujours fragile. Selon le sondage TNS Sofres Swan réalisé du 2 au 5 septembre pour le Figaro et LCI, le président arriverait en quatrième position au premier tour, avec 11% des intentions de vote, face à Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ce dernier, démissionnaire en août, entend, je cite, se consacrer entièrement à son mouvement politique En Marche, lancé au printemps 2016, et affirme vouloir reprendre sa liberté pour continuer à construire une nouvelle offre politique. L'ancien ministre de l'économie devancerait le président dans tous les cas de figure. Il est donné à 16% des intentions de vote dans le sondage TNS, sondage qui par ailleurs estime que la gauche sera éliminée au premier tour, quels que soient ses candidats. François Hollande, qui annoncera ou non sa candidature en décembre, a affirmé dans son discours du 8 septembre à la salle Wagram son intention de veiller à l'image de la France lors des prochains mois ou des prochaines années. Derniers mots qui ont fait couler beaucoup d'encre prévisionnelle. 224 jours avant le premier tour des élections présidentielles du 23 avril 2017, l'état de la gauche n'a plus rien de commun avec sa situation il y a 4 ans. Le PS a perdu toutes les élections intermédiaires depuis la présidentielle de 2012 et le Premier ministre a dû recourir par deux fois au 49-3, bien qu'il dispose théoriquement d'une majorité à l'Assemblée. L'unanimité de la critique du PS à l'extrême gauche n'implique pas pour autant son unité. Présentant la fête de l'UMA, Pierre Laurent a déclaré ne pas exclure une candidature commune avec la gauche du PS, bien que le Front de gauche ait renoncé à être présent à la fête et malgré les dissensions entre ce mouvement et le parti de gauche. Un appel à se rassembler derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon a néanmoins été lancé par Patrice Cohen-Seat et des élus du Parti communiste. Appel intitulé « En 2017, faisons front commun ». Sur cette question, Jean-Louis Bourlange.
Oui, cher Philippe, permettez-moi d'abord de me réjouir d'être ici à vos côtés, ainsi que nos amis. Deuxièmement, je ne vous suivrai pas sur cette épouvantable chronique des gesticulations. C'est pas la chronique qui est épouvantable sur les gesticulations, bien entendu. Cette épouvantable chronique des gesticulations des uns et des autres, car je crois au bout du compte que la gauche est prise dans un certain nombre de contradictions dont elle n'a pas le monopole, que la droite, contradictions qui frappent également la droite, mais que la gauche vit avec une intensité très particulière. Et je pense qu'il faut essayer de s'interroger sur cela. Je pense qu'il y a deux problèmes majeurs. Il y a Caribe et Silla, si je puis dire. Caribe, c'est la tentation de la reproduction. On voit bien que si le système tel qu'il dérive sans avancer, peut aboutir à une reproduction imparfaite de l'équation de 2012. Avec tout ce que ça comporte. Et évidemment, donc, Le Pen, Sarkozy, s'il l'emporte sur la primaire, sur Juppé, Bayrou, excusez-moi, la confusion s'explique, Bayrou, Hollande et Mélenchon. On peut arriver à un résultat pareil, et évidemment, c'est quelque chose qui est très, très préoccupant et qui frappe d'abord la gauche, puisque la gauche, elle, sort d'en prendre, si je puis dire. Elle a son sortant. Sarkozy est peut-être pas très frais, mais il a quand même eu 5 ans ou 4 ans pour se faire un peu oublier. Tandis que Hollande, là, il est vraiment à l'usage et très usé. Donc on a ce premier point. et qui, avec deux avantages, alors une possibilité Macron et une possibilité Juppé. Alors, évidemment, Juppé, c'est le futur antérieur et Macron, c'est le conditionnel. Donc, ce sont deux formes avec un petit avantage pour Macron sur le plan du renouveau, mais pas sur le plan du système. La deuxième contradiction, elle est tout à fait profonde, c'est le fait que nous avons atteint un degré absolu de non-concordance entre le clivage idéologique, qui est un clivage centre-extrême, biaxial, centre contre l'extrême droite, centre contre l'extrême gauche, autour de deux modèles idéologiques très différents. Un modèle aux extrêmes qui est autoritaire, nationaliste, souverainiste, protectionniste, enfin, quelles que soient les formes, ça prend des formes nuancées selon qu'on a affaire à Mélenchon ou à Le Pen, mais plus ou moins xénophobe. Si c'est Le Pen, c'est plus xénophobe que si c'est Mélenchon, mais c'est quand même deux structures autoritaires, et au milieu, un foyer de cohérence qui est un foyer de cohérence de caractère économie ouverte, ouverture sur l'Europe, ouverture sur le monde, refus d'un système autoritaire et respect d'un certain nombre de droits fondamentaux, Convention européenne des droits de l'homme, etc. Ça, c'est le clivage idéologique. Mais il se télescope avec le clivage droite-gauche traditionnel, ce qui fait que pour la première fois, sur le plan idéologique, la gauche et la droite sont en contradiction l'une par rapport à, sont en contradiction, et c'est le centre qui est un foyer de cohérence. Le centre est un foyer, malgré Jacques Bayrou qui a introduit une nuance populiste dans ce foyer de cohérence, mais là il est un peu décalé. Mais en règle générale, on voit bien que la contradiction idéologique parcourt la gauche et la droite. Donc on a une sorte de situation extrêmement difficile à contrôler avec ces deux menaces. Comment fait-on par rapport à ça? Ben, je crois que l'astuce des partis, qui sont assez astucieux en réalité, que ce soit à droite ou à gauche, a été les primaires. Alors prenons, puisque nous parlons de la gauche, prenons la gauche, prenons... Alors il y a un chef d'orchestre, qui n'est pas François Hollande, mais qui est Jean-Christophe Cambadélis, qui est une sorte, dans la double inconstance de Marivaux, c'est le rôle de Flaminia, ou dans Molière, c'est le rôle de Scapin, c'est celui qui organise toute la pièce
il
autour de lui.
Il va apprécier, je pense.
Flaminia, c'est bien, Scapin, c'est un peu... Mais ça marche, quand même. Donc, c'est quelque chose qui... Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais internaliser... Il faut réinternaliser au droit de gauche le conflit idéologique, et donc on va organiser ces primaires. Et on voit bien le mécanisme. Ça consiste, puisqu'on a globalement deux menaces pour faire, ça consiste à prendre François Hollande, qui est évidemment l'homme de la synthèse, mais qui est très très fatigué, très usé, qui ne sait plus très bien quoi dire, etc. On va réussir une candidature d'échec. Bien sûr, Hollande ne sera pas élu. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire qu'il le soit, parce que de toute manière, on ne sait pas comment il pourrait gouverner et avec quelle majorité. Il est déjà totalement épuisé sur ce plan-là. Mais il peut servir à préserver l'unité du parti. Et face à Montebourg, on dit à Montebourg, ben voilà, vous rentrez dans la primaire, et là, clac, vous la perdez, parce que toute votre contestation idéologique profonde, elle est à l'extérieur du système, et si vous êtes hors de la primaire, vous perdez aussi, parce que vous êtes dans une situation de... Vos gens ne vous suivent pas. Et si Montebourg n'y va pas, Hollande y va, et à ce moment-là, Macron hésite beaucoup à faire le parricide. Donc voilà, alors la seule chose qui porte une grande ombre sur tout ça, c'est qu'il n'est pas du tout évident que le Parti Socialiste ne soit pas devenu une vraie coquille vide, et que, en réalité, c'est ce que montre un peu le sondage auquel vous avez fait allusion, il n'y a plus personne qui se retrouve là-dedans. Alors ça peut complètement exploser, avec un Macron qui ferait une percée et qui s'imposerait. Mais alors là, effectivement, et c'est pour ça que je suis finalement assez pessimiste, Macron a pour lui l'avantage d'incarner la rénovation, mais il est absolument incapable de porter, pour des raisons stratégiques, la rénovation du système, la transformation du système, dont mon ami Jérôme Jaffré disait récemment que cette recomposition était à la fois nécessaire et impossible.
Thierry Pêche.
Juste un commentaire sur ce que vient de dire Jean-Louis avant de développer quelques analyses. Je crois qu'il a raison... de souligner l'opposition entre le clivage idéologique et le clivage des appareils partisans classiques, si vous voulez, à une nuance près toutefois sur le clivage idéologique. Certes, il y a une opposition entre les centres, centre-droite, centre-gauche d'un côté, et les extrêmes, mais sur certaines questions que vous n'avez pas citées, Jean-Louis, le clivage est très classique, et en particulier sur les questions qui, depuis cet été et depuis quelques mois, sont au cœur de la discussion, en particulier sur les questions de sécurité, de rapport à l'état de droit. Et là, il y a, et c'est pour ça d'ailleurs, je pense que le président de la République, dans son discours de Wagram, a tellement insisté là-dessus, c'est qu'il y a, entre la droite et la gauche, une espèce de clivage très classique sur ces questions. Alors, qui vient se surajouter à ce que vous avez dit.
La différence de nationalité, par exemple.
Oui, alors effectivement, il y a ce caillou dans la chaussure, vous avez raison de le souligner, mais depuis cet été, c'est ce clivage-là qui semble s'installer, d'ailleurs, dans une espèce de duo, je ne sais pas s'il est concerté, mais où les deux personnages se donnent une importance réciproque et une centralité qui leur va bien, d'une certaine manière, Sarkozy et Hollande, se répondent par voie de tribune et de presse, maintenant, et se choisissent, d'une certaine façon, comme l'interlocuteur l'un de l'autre, sur ce terrain, sur le terrain de la sécurité, pas sur les autres terrains où, vous avez raison, le clivage idéologique s'est totalement restructuré. Alors, pour revenir au sujet que vous nous avez proposé, Philippe, c'est-à-dire l'état de la gauche, je crois que ce qui se passe à gauche, c'est un processus de scissiparité qui n'en finit pas. Il y a à la fois une division qu'on avait vu venir et qui est ancienne entre une gauche historique, classique, traditionnelle, et une gauche social-démocrate qui a mis beaucoup d'eau dans son vin, qui a gouverné et à qui on fait reproche d'ailleurs d'un certain nombre de ses réformes. Mais à l'intérieur même de ces deux ensembles, il y a des divisions qui semblent de plus en plus insurmontables. À la gauche historique classique qui veut s'appeler alternative, hein, si j'ai bien lu les comptes rendus des premières interventions de la fête de l'humanité où ils se sont donné rendez-vous, vous avez quand même entre Mélenchon et Montebourg tout un éventail de positions aspirant à rassembler ce monde sur des bases qui sont très différentes. Je pense que personne en dehors de Mélenchon ne pourrait dire, comme il l'a fait devant le Parlement européen il y a quelques mois, les travailleurs détachés volent leur pain aux ouvriers installés localement, par exemple. Je pense que ça, c'est une expression populiste classique d'inspiration, d'ailleurs archéo-léniniste, que Mélenchon est le seul à pouvoir assumer dans cet ensemble-là. Et puis Montebourg, de l'autre côté, qui lui est encore à se demander s'il ira dans la primaire PS, c'est-à-dire dans le canal institutionnel de sélection du leader. Et puis de l'autre côté, vous avez une gauche social-démocrate qui est elle-même divisée avec des tempéraments, des options, des stratégies qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Valls, Hollande, Macron. Manuel Valls, il est aux commandes, il est Premier ministre d'un gouvernement qui est la cible de beaucoup d'attaques, mais enfin, il a pour lui, par exemple, que sur les questions de sécurité qui sont au cœur de la discussion, les Français, les sondages lui font plutôt confiance. Bon, et il a d'ailleurs des gens dans le parti qui sont prêts à rouler avec lui, mais cette position n'est pas de nature à rassembler l'ensemble de la gauche. Macron, sa voix est très étroite. Certes, il incarne le renouveau, il incarne une forme de d'émancipation du système. Mais enfin, son terrain, c'est au centre qu'il se dessine. Et si Hollande est candidat, ou si c'est Juppé qui sort vainqueur de la primaire, son espace politique est très rétréci. Il est très étroit en réalité. Donc le chemin de crête d'Emmanuel Macron est assez compliqué. Quant à François Hollande, il est revenu dans la lice très clairement avec le discours de Wagram. Mais enfin, son avenir ne dépend pas simplement de son envie. Ça dépend aussi des circonstances qui seront celles du mois de décembre, au moment où il prendra sa décision. Et ces circonstances, elles seront déterminées par au moins deux facteurs. Qui est sorti de la primaire à droite ? Est-ce que c'est Juppé ou est-ce que c'est Sarkozy comme il semble le souhaiter, puisque ça lui ouvrirait un espace plus large? Et deuxièmement, où en sera la courbe, la fameuse courbe du chômage?
Michaela Wiegel.
Oui, alors quand on compare la situation de la gauche en France avec la situation en Allemagne, c'est très intéressant parce que dans les deux pays, les partis socialistes, social-démocrates sont au pouvoir. En France seule, en Allemagne en coalition, et force est de constater que en fait, alors qu'en Allemagne, à la surprise générale, on a l'impression que la gestion quotidienne des affaires de l'État ne nuit pas à la SPD à l'heure actuelle, et toutes les fautes, notamment sur la politique d'immigration, sont pour lesquelles est rendue responsable la chancelière, d'où des résultats plutôt encourageants lors des dernières élections régionales en Allemagne, alors qu'en France, on peut quand même dire que au bout de un peu plus de 4 ans au pouvoir, la gauche sort complètement divisée, ça vient d'être dit, mais aussi, et en cela, je crois que le scénario d'une reproduction imparfaite de 2012 me paraît assez invraisemblable, assez peu en mesure de défendre. En 2012, la gauche a défendu en quelque sorte le modèle social à la française contre les projets de Nicolas Sarkozy. Mais aujourd'hui, on est quand même sous cette priorité donnée à la guerre contre le terrorisme, sous cette crise de l'immigration. Et donc, on voit très bien que là, la gauche, en tant que défendant la société ouverte, est très très mal établie. Et on le voit effectivement avec le discours de Wagram de Hollande, il essaye de rattraper ce rôle traditionnel de la gauche comme défenseur de la société ouverte. Mais effectivement, ça vient d'être dit, le débat sur la déchéance de nationalité, mais même des mini-débats comme sur le Burkini, où Manuel Valls a quand même soutenu les maires qui voulaient interdire un habit à la mode, mais qui n'a rien à voir... Qui n'a rien à voir quand même avec la religion. C'est pas un objet religieux à proprement parler. Ça peut être utilisé comme tel. Mais du coup, on voit très bien que la gauche, comme défenseur de la société ouverte, elle est très mal en pointe en France. Et je pense, au-delà donc du débat économique qui semble un peu dépassé, ce rôle-là, qui on attendait un peu, les autres gauches en Europe attendaient un peu de la gauche française, parce que la France est tellement frappée par le terrorisme, de montrer la voie, on a l'impression, pour l'instant, en tous les cas, c'est très mal engagé. Même si François Hollande a dit clairement non à l'état d'exception, mais on est quand même dans un entre-deux actuellement.
François Bujon de l'Étang.
L'état de la gauche, il n'est pas bon. C'est une constatation d'évidence. La gauche souffre de toutes sortes de maux, mais elle souffre d'abord de l'usure de 4 ans de gouvernement sans avoir obtenu de résultats véritablement tangibles, ni sur le chômage, ni sur la croissance, ni sur l'endettement, ni sur la compétitivité. Elle s'est efforcée d'entamer quelques réformes, mais ce ne sont pas des réformes significatives. Les épisodes successifs de la loi Macron et puis de la loi Travail ont bien montré les divisions au sein de la gauche et les demi-mesures auxquelles il lui fallait finalement sur lesquelles il lui fallait se rabattre. Elle est en net recul, vous l'avez rappelé, dans toutes les élections locales, elle les a toutes perdues, elle est en recul dans les sondages, elle est en recul partout, et surtout, elle est profondément divisée et n'a aucune base idéologique commune, au fond. Il y a une gauche d'opposition, appelons-la comme ça, qu'on va du Parti communiste à Monsieur Mélenchon, en passant par les Frondeurs, par la CGT, FO, etc. Et puis il y a une gauche de gouvernement qui est elle-même divisée au point qu'il faut recourir au 49-3 pour faire passer les textes. Voilà. Alors le problème il est là. Là-dessus se greffe évidemment l'approche des élections présidentielles et les querelles de personnes qu'elle engendre. Il y a des ambitions personnelles, on les a vues. Il y a l'aventure de Monsieur Macron dans laquelle il s'est lancé. Il y a le fait que 4 anciens ministres des gouvernements de Monsieur Hollande se présentent au fond contre lui, puisque très peu de gens doutent qu'il sera lui-même candidat. Et il y a un Premier ministre qui est loyal, bien sûr, mais qui quand même se prépare pour le cas où. On ne sait jamais. Alors au centre de tout ça, il y a M. Hollande et l'équation personnelle de M. Hollande. Bon, il est aujourd'hui candidat, on le voit bien, c'est un secret de Polichinelle, l'épisode de la salle Wagram cette semaine l'a plus ou moins confirmé, mais il ne se déclarera qu'en décembre et au fond, on verra ce qui se passe dans les primaires. Le calendrier est difficile et la voie pour lui sur laquelle il peut essayer de se présenter est évidemment très très étroite, tout le monde le sait. Mais il me semble que par-delà ces problèmes de personne, par-delà la question de savoir si Hollande a encore un espace politique suffisant pour chercher à exister rester dans la jungle qui l'entoure ou s'il ne l'a plus. Le fond du problème, finalement, qui est en jeu, c'est la survie du Parti socialiste, tel que nous l'avons connu. Je veux dire, le parti d'Épinay, celui qui a dominé la vie politique pendant pas mal d'années. Il n'y a plus de base idéologique commune au sein du Parti socialiste. Je ne parle même plus au sein de la gauche. Je me restreins cette fois-ci au Parti socialiste. Vous avez des réformistes, vous avez des conservateurs. Et c'est là où Macron, finalement, met le doigt sur un point très, très sensible. Il essaye de jouer un jeu nouveau qui n'est pas celui des partis, qui n'est pas celui du vieux clivage droite-gauche. Il essaye de jouer le jeu du clivage entre réformistes et conservateurs. Et en ce sens, je reconnais bien Jean-Louis en le classant au centre et en disant que c'est au centre que se jouera tout cela. Mais les constatations sont là. Le Parti socialiste, tel que nous l'avons connu après Épernay, est mort.
Épinay.
L'année 2017...
Épernay, c'est Champagne. Épinay,
oui, Épinay, pardon, Épinay. Oui, je pensais évidemment aux bulles. Et, il a pétillé, mais c'est Épinay, bien entendu. L'année 2017 sera cruciale et elle prendra acte, sans doute, de la fragmentation définitive du parti. Et celui-ci a besoin d'une refondation qui ne peut arriver que sous un nouveau quinquennat.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, d'abord, je serai sensible à ce qu'a dit Thierry, sauf que, effectivement, comme l'a remarqué Michaela, depuis un an, tout le discours est à contre-courant de tout ça. Que ce soit sur El Khomri, on met plutôt en cause les droits sociaux, même si c'est un faux procès. L'image est là, sur la déchéance de nationalité, sur le burkini. Donc, là, j'ai apprécié dire le discours de Hollande. Il est revenu en arrière. Il a vraiment fait une bifurcation par rapport à la ligne Valls. Mais c'est court pris. Il arrive comme ça, il fait une volte qui est sans doute peu compréhensible. Sur Mélenchon, un mot, j'ai pensé en vous écoutant, Thierry, à Fernand Reynaud, au sketch de Fernand Reynaud sur il y a les Arabes qui nous prennent notre pain. Et puis alors maintenant, on n'a plus de pain parce que c'était l'Arabe, c'était le boulanger, il est parti. Et alors, Fernand Reynaud était, je crois, assez proche du Parti communiste français. Mélenchon est manifestement plus éloigné du Parti communiste français que Fernand Reynaud. Sur le désir de campagne...
Pour faire le spectre politique complet de Jean-Luc Mélenchon, de Lénine à Fernand Reynaud, on peut aussi repasser par Coluche, qui sont ces Arabes qui viennent voler le pain de nos Portugais.
Oui, absolument. C'est tout à fait ça. Alors, sur le désir de candidature de Hollande, j'ai bien aimé ce qu'a dit récemment Olivier Duhamel, à savoir qu'il n'a pas affirmé sa candidature, il a offert sa candidature en disant « c'est quand même bien ce que je représente, si vous en voulez, il faudrait quand même le manifester ». Ce n'est pas tout à fait une décision. Ce qui me paraît frappant, c'est le ton extrêmement détaché de Hollande, qui était dans le bilan historique. Et ça m'a fait penser à une vieille analyse de mon ami Gilles Andréani, qui disait toujours qu'en politique, parmi ceux qui échouent, il y a toujours trois étapes. D'abord, quand vous arrivez au pouvoir, si ça marche pas, c'est la faute des prédécesseurs. Alors, le bilan, etc. Puis ensuite, au bout de 2 ans, c'est toujours comme ça. Alors, à ce moment-là, c'est la faute de la communication. Vous faites une bonne politique, mais manifestement, elle n'est pas bien relayée. Il y a un problème de communication. Et à la fin, il le citait d'ailleurs à propos de Blair sur l'Irak, à la fin, le gars vous dit, mais de toute manière, l'histoire nous donnera raison. Et quand on dit ça, c'est que la fin est proche.
Jean-Louis, vous devriez faire attention à ne pas dire « mon ami », parce que quand vous dites « mon ami Jérôme Jaffré », puis après « mon ami Gilles Andréani », et que ne vous dites pas « mon ami Olivier Duhamel », tout le monde pense que vous êtes fâché avec Olivier Duhamel.
Ah oui, oui, écoutez, je veux dire, alors ce ne sont pas mes ennemis, ni les uns ni les autres. Voilà, on va dire les choses comme ça. Excusez-moi de cette discrimination bien involontaire. Alors, simplement, la recomposition, je pense que le butoir, et là c'est mon non-ennemi Jérôme Jaffré qui me disait ça aussi, comme je l'ai cité tout à l'heure, le butoir c'est évidemment les législatives. Vous pouvez émerger à la faveur d'une conjoncture un peu astrale comme candidat à la présidence de la République, mais vous êtes dans la situation où était Poher, où était Bayrou, où était un certain nombre de gens. À la fin, comment vous pouvez recomposer? Or, les élections législatives sont, si je puis dire, déjà faites au moment de la présidentielle. Tous les gars sont sur les starting blocks, ils ont leurs amis, leurs ennemis, et ils ne peuvent pas bouger d'un fil. Et donc le problème est extrêmement aigu pour Macron. S'il était élu, je crois que l'une des solutions qui pourrait être envisagée, ça serait de faire un référendum sur le mode de scrutin, parce que évidemment ça ne changerait pas l'élection à venir, mais comme les parlementaires se réfèrent toujours au scrutin qui vient ou pas au scrutin passé, si on introduisait un peu de proportionnel, mais pas trop pour pas limiter l'Espagne, on pourrait quand même avoir des parlementaires qui seraient plus disposés, les gens de centre-droit à regarder vers la gauche et les gens de centre-gauche à regarder vers la droite.
Thierry Pech. Je rejoins au moins Jean-Louis sur ce dernier point, c'est-à-dire le souhait d'un peu plus de proportionnel et même de beaucoup plus de proportionnel dans le scrutin législatif pour rouvrir le jeu politique. Trois points rapidement. Le premier, la division entre les gauches n'est pas qu'idéologique. Vous avez raison, il n'y a plus de socle commun entre, d'un côté, la gauche alternative et de l'autre, la gauche de gouvernement. Et cette division, elle est aussi stratégique. Il me semble que dans les gauches alternatives aujourd'hui, personne sincèrement ne cherche ni ne veut gouverner. La vérité, c'est qu'ils veulent témoigner. Ils veulent être les premiers à venir déposer une rose sur le cercueil et à se présenter à la sortie de l'église en disant « la recomposition, c'est moi ». Une rose rouge, effectivement. Bon, mais c'est pas du tout une stratégie de gouvernement. Je n'y crois pas un instant. Ils ne veulent pas gagner. La vérité, c'est ça. Si on veut gagner, on raisonne autrement. Premier point. Deuxième point, la position de François Hollande aujourd'hui est, toutes choses égales par ailleurs, à peu près la stratégie qui était celle de Mitterrand en 88. La cohabitation en moins. Il manque vraiment quelque chose d'important. Mais, certes. En gros, ça consiste à dire, souvenez-vous, Mitterrand en 88, il vient dans les Français en disant « je vais être le candidat de la paix civile ». Je suis entouré de gens qui sont fous, qui vous racontent qu'ils vont mettre à feu et à sang le modèle social français. Aujourd'hui, qui considèrent que l'état de droit, ce sont des arguties, que la Constitution peut s'asseoir dessus, qu'il faut l'état d'exception, il faut régler le droit sur la menace et ne pas demander à la menace de se régler sur le droit, pour reprendre les mots de Sarkozy. Donc c'est à peu près la stratégie Mitterrand 88, mais dans des circonstances assez différentes. Bon, est-ce que ça peut marcher ? Beaucoup dépend du comportement des gens de droite. Or, le comportement des gens de droite aujourd'hui, c'est de s'installer dans la primaire sur un terrain extrêmement radicalisé. La discussion politique, je trouve, qui est en train de se préparer, de se nouer au seuil de la primaire, est une discussion très radicalisée et qui, personnellement, m'inquiète un peu. Troisième et dernier point, ne prenons pas l'habitude de caricaturer le bilan de ce quinquennat, comme nous avons excessivement caricaturé, Jean-Louis le rappelle souvent, le bilan du quinquennat précédent. On ne peut pas dire, par exemple, que le bilan de ce quinquennat en termes de compétitivité est nul. C'est la gauche au pouvoir qui aura restauré les marges des entreprises à nouveau, comme ça avait été le cas en 83-84. On ne peut pas dire non plus qu'en termes de déficit, le bilan soit nul. C'est la gauche qui aura ramené les comptes publics français dans les clous de Maastricht, qui n'étaient pas forcément de bons clous. Mais on ne peut pas dire le contraire. Quant au chômage, pour finir, on verra en décembre.
On n'y est toujours pas dans les clous de Maastricht.
Non, mais on y va. Enfin, soyons clairs. 3%, c'est absolument pas inaccessible à l'horizon de l'année qui va se conclure.
Michaela Figel.
Oui, je voulais revenir à cette idée d'une campagne méditerranéenne. Il y a un aspect qui m'a beaucoup intriguée dans le discours de Wagram, c'est que à force d'avoir des pics et des petites allusions à Sarkozy et aux Républicains, ça faisait presque oublier le Front National. Et en quelque sorte, ça faisait comme si le Front National n'était pas un adversaire à combattre. Et je sais pas, en sous-main, j'avais presque l'impression, mais c'est probablement une surinterprétation, que ça réhabilitait ou ça, en tous les cas, ça cautionnait en quelque sorte on accepte que tous les sondages prédisent que Marine Le Pen va être au deuxième tour et de toute façon, nous, on joue le premier tour. Ça m'a beaucoup gênée, je dois dire. Alors sur le bilan proprement économique, effectivement, je pense qu'il faut nuancer, mais force est de dire quand même que on n'est pas allé aussi vite dans l'accomplissement des objectifs de Maastricht, avec toute la critique qu'on peut avoir hein, sur mais on n'est pas allé aussi vite et aussi on verra où en seront vraiment les comptes, parce que c'est quand même assez inquiétant tous les promesses, et là encore une fois on a des baisses tempo annoncées, mais à la différence de l'Allemagne, on sait absolument pas comment c'est financé.
Je vous propose que nous passions à notre traditionnel deuxième sujet, sujet de politique étrangère, que nous intéressions à la Turquie. Dans le nord de la Syrie, l'armée turque a lancé le 24 août une offensive baptisée « Bouclier de l'Euphrate ». Cette offensive
est dirigée contre le groupe État islamique et les troupes kurdes. Cette opération met un terme à une période de plus de 2 ans qui avait vu Ankara se tenir à distance des affrontements entre les multiples belligérants du conflit syrien. Le président Erdogan a présenté cette action comme une réponse, je cite, aux activités terroristes en cours à ou près de nos frontières, alors que la Turquie est la cible d'une vague d'attentats attribués alternativement à Daesh et au PKK. Ce basculement intervient un mois après l'échec de la tentative de coup d'état militaire du 15 juillet, qui s'était soldée par 350 morts et un millier de blessés. Attribué par le gouvernement turc à l'imam en exil Fethullah Gulen, ancien allié du parti au pouvoir, l'AKP, ce putsch manqué a déclenché une vague de purges à travers l'ensemble de la société turque. Et cette répression toujours en cours s'est traduite par la détention de plus de 40 000 personnes, la suspension de dizaines de milliers de fonctionnaires et la fermeture de milliers d'associations, d'entreprises et d'institutions éducatives. Un rapport d'Amnesty International fait état de cas de torture perpétrés dans le cadre de l'état d'urgence décrété pour une durée de 3 mois. Ces événements ont ravivé les tensions entre la Turquie et ses alliés de l'OTAN. Le président Erdogan a exigé jusqu'ici en vain l'extradition par les États-Unis de Fethullah Gulen et il a déploré des condamnations trop tièdes du putsch par les pays occidentaux, allant jusqu'à affirmer qu'ils avaient, je cite, pris le parti des putschistes et des terroristes. Le G20 de Hangzhou, clôturé le 5 septembre, a été l'occasion d'échanges plus cordiaux. Ankara a annoncé son intention de respecter l'accord sur l'immigration signé avec l'Union européenne en mars dernier et affirmé que le rétablissement de la peine de mort, un temps évoqué après la tentative de coup d'État, n'était pas à l'agenda. Une rencontre entre Barack Obama et Recep Tayyip Erdogan a amorcé une détente entre les deux chefs d'État, le président américain s'étant engagé à poursuivre en justice les individus impliqués dans le putsch, l'extradition de l'imam Gulen demeurant suspendue à la communication de preuves tangibles par la Turquie. Le sommet international a été également l'occasion de la deuxième rencontre en moins d'un mois entre le président Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine. Ce rapprochement intervient après des mois de fortes tensions consécutives à la destruction fin 2015 d'un bombardier russe par l'armée turque dans la zone frontalière turco-syrienne. Sur cette question, François Bujon de l'Étang.
Alors, voilà vraiment un problème international d'une extrême complexité et dont la complexité n'a fait que s'accroître au cours de cette dernière semaine. Le problème turc était déjà très délicat avant les événements de l'été dernier, c'est-à-dire la tentative de putsch pour l'essentiel et l'offensive turque en Syrie. On avait affaire à une dérive autoritaire du président Erdogan qui avait entrepris un effort d'islamisation rapide du pays et de démantèlement de l'héritage kémaliste, à une reprise de la guerre avec le PKK et avec les Kurdes, à des ambiguïtés dans l'attitude vis-à-vis de Daesh et à un isolement diplomatique croissant dû à l'échec de la politique néo-ottomane poursuivie par Ahmet Davutoğlu aujourd'hui. Remercier, si j'ose dire, en tout cas limoger. Et Erdogan était déjà engagé sur de multiples fronts, contre Daesh, contre Bachar el-Assad et la Syrie, contre les Kurdes et contre ses ennemis intérieurs. Mais voilà qu'aujourd'hui, après la tentative de putsch manquée, qui a été violente quand même, qui a fait 200 morts et 1500 blessés, et après l'intervention militaire dans le nord de la Syrie, nous avons à faire face à de nouvelles complications. Complications d'abord parce qu'Erdogan est fâché à peu près contre tout le monde. Il est fâché contre les Américains, il est fâché contre les Européens, il a entrepris les purges extrêmes dont vous avez parlé. Il a entrepris un rapprochement avec M. Poutine, qui se manifeste de façon spectaculaire au fil des semaines. Il a essayé aussi de normaliser sa relation avec Israël, avec qui il était brouillé depuis une dizaine d'années. Il met de l'eau dans son vin vis-à-vis de Bachar. Il devient plus offensif vis-à-vis des Kurdes. Bref, on a le sentiment qu'il y a un mouvement général qui a été déclenché par le putsch et une espèce de reclassement des différentes cartes qu'il y avait dans le jeu d'Erdogan d'une façon tout à fait différente. Alors, on a affaire aujourd'hui une espèce de, je pense à ce jeu qui a eu beaucoup de succès à un moment qui s'appelait le Rubik's Cube, qu'on retournait dans tous les sens pour essayer de trouver la clé de la solution. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? D'abord, une certitude qui a été vraiment soulignée par tous les derniers événements de ces derniers mois. C'est la position absolument centrale de la Turquie, son caractère tout à fait incontournable en termes géostratégiques et en termes politiques. Pour les États-Unis, c'est un allié fondamental dans la lutte contre Daesh et c'est un membre de l'OTAN. Pour l'Europe, c'est un partenaire absolument indispensable car on a besoin d'elle pour résoudre ou en tout cas endiguer la question des réfugiés. Pour la Russie, c'est forcément un partenaire important parce que la Turquie est partie prenante à la solution qui finira par émerger en Syrie. Pour Daesh, c'était évidemment une voie de passage tout à fait cruciale et la Turquie était un élément très important également pour ses trafics pétroliers. Pour les Kurdes qui cherchent à asseoir leur autonomie en Syrie, en Irak, etc., la Turquie qui lutte contre le PKK est un obstacle considérable. Et pour ses voisins irakiens et iraniens, c'est aussi un élément fondamental. Alors ça c'est la certitude que nous retirons tout ça. Il y a aussi une espèce de révélation que nous apportent les événements de l'été dernier, et elle est plus inattendue, c'est celle de la fragilité extrême de la Turquie. Sa fragilité intérieure très très grande, mise en évidence par le putsch et par le fait que cette armée qu'on croyait complètement décapitée par les procès, Ergenekon et tout ce qui s'ensuit, avait encore un certain nombre de ressources putschistes, mais aussi par le fait que depuis que les purges ont été entamées, l'État turc est complètement affaibli. La justice, la police, l'éducation, tous les grands secteurs de l'État sont affaiblis et l'armée turque elle-même, vraisemblablement, très affaiblie. Et puis une évidence aussi qui sort de tout ça, c'est le caractère central du problème kurde. Nous avons tendance à nous focaliser sur Bachar el-Assad, sur Daesh, etc. Mais le problème kurde, aux yeux d'Erdogan, est absolument fondamental. Il ne veut pas qu'en Syrie se crée une zone kurde autonome qui pourrait, bien entendu, renforcer les prétentions du PKK et compliquer sa tâche. Et du coup, il a une certaine tentation à renverser ses alliances. Lui qui était hostile à Bachar commence à mettre pas mal d'eau dans son vin, nous y reviendrons peut-être. Et vis-à-vis des Américains, il a toutes sortes de sujets de contentieux, mais l'un d'entre eux qui est en train de devenir le numéro un, c'est l'appui américain au PYD, c'est-à-dire au prolongement en Syrie du PKK. C'est là-dessus que vont se jouer les prochaines semaines sur les compromis qu'il va chercher à négocier avec les États-Unis d'une part et avec les différentes parties prenantes à la crise syrienne de l'autre.
Michael Avigel.
Oui, pour poursuivre un petit peu cette excellente analyse, on a même l'impression que cet accord de cesser le feu qui vient d'être établi entre les États-Unis et la Russie concernant notamment la région d'Alep en Syrie, on a l'impression qu'en sous-main, on est déjà en train les Américains sont déjà en train de lâcher en quelque sorte les Kurdes qui Kerry, je crois qu'il a dit, qui sont allés trop vite dans leur offensif. Et donc, ça montre bien que Erdogan était un des premiers à se féliciter de cet accord intervenu. Ça montre bien qu'il y a des dessous de table dont on n'a pas totalement connaissance aujourd'hui, mais qui n'annonce rien de bon pour les Kurdes. Je pense, quand on regarde l'évolution de la Turquie, et je dis ça parce que j'observe le débat sur l'islam avec beaucoup d'attention. La France devient vraiment le seul pays laïque dans tout l'espace européen. Parce qu'avant, on pouvait dire qu'il y avait quand même encore en Turquie des restes de ce kémalisme laïque. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il en reste quasiment plus rien, même plus l'illusion que la Turquie était un pays laïque. Et j'ai trouvé à cet égard très intéressant que immédiatement après le début du putsch, le chef de la direction des affaires religieuses a appelé les 85 000 mosquées à organiser la résistance. Et cet appel était très suivi. Et donc, on a de plus en plus, en quelque sorte, une confusion entre les autorités religieuses et Erdogan qui est un petit peu le... Donc ce mouvement-là, je pense, ça va être lourd aussi de conséquences, et j'ai dit ça parce qu'en Allemagne, on a pas les chiffres vraiment très exacts, mais on a au moins 2 millions de Turcs ou de personnes qui sont, on dit, racines turques. Cette islamisation forcée, ça va forcément aussi changer les comportements des Turcs en Europe. Et Dernier mot, l'Union européenne, en revanche, elle est dans une attitude que je qualifierais d'attitude de lâche, qui est invraisemblable dans sa réaction. On laisse faire Erdogan et on est incapable de discuter du fond des choses. On voit que Merkel, maintenant, elle a les mains et les pieds liés par cet accord, puisque si cet accord sur les réfugiés tombe, ça veut dire qu'elle n'a plus aucun argument pour défendre sa politique, parce que sa politique aujourd'hui consiste à dire cette année et l'année prochaine sera meilleure que l'année dernière où on a pris plus qu'un million de réfugiés. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas, non plus des autres pays vraiment une approche constructive de ce qu'il faudrait faire. Donc, dont on accepte tous les transgressions avec les droits de l'homme en Turquie.
Thierry Pêche.
Oui, non, très rapidement, je ne suis pas du tout spécialiste de ce dossier, mais moi, ce qui me frappe, c'est que c'est les retournements d'alliance qu'Erdogan est en train de mettre en avant, son rapprochement avec la Russie, sa tentative de rapprochement avec Israël sur d'autres dossiers. Alors, le retournement d'alliance est une spécialité turque, il faut bien le dire, historiquement. Et ça me rappelle une époque, si vous voulez, qui ne serait pas de bon augure pour la Turquie. C'est-à-dire que la fin de l'Empire ottoman, c'était ça, c'était le marché des alliances. C'est-à-dire, je ne suis pas très fort, mais je suis central. Et donc, qu'est-ce que vous me proposez les uns et les autres pour que je sois votre allié? Vous, l'Allemagne, vous, la France, vous, le Royaume-Uni. À l'époque, c'était ça, l'échiquier. Et ils ont fini par faire d'ailleurs un mauvais choix en choisissant l'Allemagne. Et ça s'est fini dans le sang et le dépeçage de l'Empire ottoman, les accords Sykes-Picot, etc., etc. Vous connaissez cette histoire. Elle pourrait se rejouer. Erdogan, d'ailleurs, l'a très bien compris. Il a vu que les Occidentaux ne s'étaient pas précipités à son chevet au moment du putsch. D'ailleurs, il en a conçu une aigreur et une amertume dont il, sur laquelle il se répand volontiers dans les médias, y compris dans l'interview qu'il a donnée au journal Le Monde il y a quelques jours. Et donc, c'est vrai que les Occidentaux pourraient finir par se dire, et pas que les Occidentaux, les Russes aussi, s'ils en ont besoin, que bon, finalement, on pourrait peut-être sacrifier Erdogan. Hein, on pourrait peut-être l'affaiblir, on pourrait peut-être en faire la variable d'ajustement. Pour le moment, on va plutôt sacrifier les Kurdes. Ça, c'est très clair côté américain. Ils seront à nouveau la variable d'ajustement. Ils l'ont déjà été dans le passé sur d'autres théâtres. Bon, mais le jour pourrait venir où on se dirait, c'est peut-être Erdogan le problème. Bon, un dernier mot. Moi, j'ai été également très frappé par les déclarations d'Erdogan sur les réfugiés. Il dit, si Alep tombe, je sais, il y aura des vagues d'immigration vers la Turquie, notre porte est ouverte, nous les accueillerons, ce sont nos valeurs humanistes qui le commandent, ce sont nos valeurs religieuses qui le commandent, et c'était un coup de pied de l'âne fantastique aux Européens. Voir ainsi changer de camp les valeurs humanistes, c'est tout de même très spectaculaire. Et je pense que là, il ne peut pas être accusé de quelques manœuvre que ce soit. La porte est effectivement ouverte, il l'a montré. Il y a déjà 3 millions de réfugiés sur le sol turc, il pourrait y en avoir demain 4 millions. Et il accepte cette perspective.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, trois types d'observations. D'abord sur le coup d'État. Je trouve que ce coup d'État est très intéressant. Les coups d'État qui réussissent à ceux dont ils sont les... qui devraient en subir les conséquences, sont de deux types. Soit ils sont provoqués par le pouvoir, ça a été le cas par exemple de l'incendie du Reichstag par Hitler, qui a été quand même une formidable opportunité pour Hitler pour installer son pouvoir, mais qui était clairement mis en place par les nazis. Alors je ne pense pas, on ne sait pas grand-chose sur le coup d'État turc, blackout total, mais je ne pense pas, on voit qu'Erdogan a été vraiment menacé dans sa vie, je ne pense pas qu'il ait complètement manipulé l'affaire. Et puis il y a deuxièmement le coup d'État libérateur. Coup d'État libérateur, l'exemple que nous connaissons bien en France, c'est celui de 61. Le général de Gaulle n'aurait jamais pu mener sa politique algérienne si l'abcès de fixation que représentait l'opposition de l'armée à cette politique n'avait sauté à la faveur du coup d'État. Alors là, on est effectivement en plein dans l'affaire. On est à la limite des deux chez Erdogan, puisque d'une part, il en profite, et d'autre part, il met quand même la pression assez forte. Si il arrête 3000 juges, c'est comme si, au lendemain du coup d'État de 61, de Gaulle avait mis le Conseil d'État, la Cour des comptes et la Cour de cassation en prison. C'est quand même étonnant. La Cour d'État militaire, ça n'appelle pas la répression dans les juges, chez les juges, chez les compagnies aériennes, dans les etc. Donc, on est vraiment dans une exploitation totalement cynique de quelque chose. Alors, la question, deuxième remarque, pourquoi ? Quels sont Erdogan trouve là des moyens considérables d'action. Quelles sont ses priorités? Je crois que les priorités d'Erdogan, elles sont très claires, elles sont doubles. elles sont, et tout le monde en conviendra, je crois, c'est l'islamisation, c'est un leader islamiste forcené, Thierry vient de le rappeler, et d'autre part, c'est un leader nationaliste. C'est la conjonction des deux choses, avec notamment la célébration des anniversaires attendus, la chute de Constantinople, la création de l'État turc par Kemal en 1923, enfin tout ça va être... La chute, on attend 53 pour la chute de Constantinople, 1453, bon, on va attendre un certain temps. Mais enfin, on voit qu'il a tout ça en ligne de mire. Et on voit bien, on comprend bien, quand on voit ces deux priorités absolues, on comprend bien deux choses. D'abord, l'obsession du génocide arménien. Pourquoi ils ne peuvent pas reconnaître le génocide arménien? Parce que c'est porté doublement atteinte à cette double réalité. C'est-à-dire, les Arméniens, c'est des cathos, c'est des chrétiens d'Orient, bien sûr, et c'est pas des Turcs. Et donc, ils sont absolument, il faut qu'ils disparaissent, ils ne peuvent pas être un obstacle à la grandeur de l'État turc. Alors là, on voit bien que, mutatis mutandis, parce que les Kurdes sont des musulmans, que l'étape suivante, c'est les Turcs, les Kurdes. Troisième remarque, et j'ai fini. On voit bien que Erdogan, actuellement, et je crois que je suis très inquiet, là, j'essaie d'aller dans le sens de ce que dit François Bujon de l'Étang, l'objectif, c'est fondamentalement l'élimination du problème kurde. Si vous voyez ce qui se fait, il a voulu adhérer à l'Europe, à l'Union européenne, pour éliminer les kémalistes et avoir les mains libres. Et maintenant, il a vaguement soutenu la politique anti-immigrée pour que l'Europe lui foute la paix. Il s'est plus ou moins rapproché de Bachar el-Assad pour que les Russes lui foutent la paix. Il s'est plus ou moins lié à l'attaque contre Daesh pour que les Américains lui foutent la paix. Il s'est rapproché d'Israël pour que l'opinion publique internationale américaine, notamment, lui foute la paix. Et donc, avec tout ça, il n'a qu'une seule idée, c'est d'avoir les mains libres pour régler à la manière forte le problème kurde. Et je ne suis pas un ami de John Enoch Powell, le célèbre conservateur ultra-raciste anglais, mais je dirais comme lui que je vois l'avenir des rivières chargées de sang.
François Bujon de l'Étang.
C'est pas une prophétie entièrement réjouissante, mais non. Je crains qu'hélas, elle n'ait quelques vraisemblances. Quelques remarques. Je souscris à l'analyse de Jean-Louis. C'est effectivement bien comme ça que ça se passe. Erdogan, il a à faire face à des quantités de crises. Il est sur tas de fronts à la fois. Vous avez parlé de Thierry, de retournement d'alliance. C'est vrai que c'est une constante de la politique balkanique, l'histoire des guerres balkaniques des années 12 et 13, l'entrée en guerre de la Turquie. Aujourd'hui, on remue l'histoire, l'idée, l'éventualité d'un retournement d'alliance considérable, parce que il est allé à Saint-Pétersbourg voir Poutine, qu'il est en train de se rabibocher avec la Russie, qu'il est fâché avec les États-Unis. Bon, c'est un membre de l'OTAN, la Turquie, et c'est un membre crucial de l'OTAN. Peut-on vraiment craindre un retournement d'alliance aussi radical que celui-là? Je ne le pense pas.
Est-ce que je peux vous interrompre?
Non, je ne mets pas ça dans votre bouche, Thierry, mais j'entends ça en ville et dans la presse.
Aux diplomates que vous avez été, est-ce que vous croyez que la Turquie aujourd'hui appliquerait l'article 5 de la Charte de l'Atlantique?
Je ne sais pas. Personne ne peut répondre à cette question.
C'est le moment de vérité.
Oui, on ne sait même pas si l'Amérique l'appliquerait, en tout cas pas celle de M. Trump, d'après ce qu'il dit.
5, c'est celui...
Non, mais revenons à ça. C'est quand même un membre de l'OTAN. Il a des bases américaines sur son territoire. Les Américains ont besoin des bases de Diyarbakir et d'Incirlik pour poursuivre la lutte contre Daesh. Et au fond, Erdogan ne leur en interdit plus. Je dis bien plus l'usage. Donc, il se comporte encore en membre de l'OTAN. C'est ça qui est intéressant. Mais je ne crois pas au retournement d'alliance. Je pense qu'il va essayer de jouer autant qu'il le pourra de la liberté de manœuvre qu'il a. Mais si vous analysez, essayons de trouver une grille d'analyse simple. Quels sont les ennemis d'Erdogan aujourd'hui? Ils ont changé depuis l'été. Si vous faites le classement de ces ennemis, en premier ex aequo, vous trouvez Fethullah Gulen et les Kurdes. Je les mets ex aequo. En troisième, vous trouvez Daesh. Et en quatrième, seulement Bachar, qui est en train de glisser en queue de peloton. Mais qui sont ses amis aussi? Ses amis, il n'a pas confiance en eux. Ce sont les Américains qui aident les Kurdes du pays grec D, qui détiennent Fethullah Gulen et ne voudront évidemment pas l'extrader. Ce sont les Européens qui ont leur accord sur les réfugiés, mais qui n'ont pas encore honoré la partie sur les visas turcs levés au 1er septembre, qui ont gelé le processus d'adhésion et qui ont cours les foudres d'Erdogan, c'est la Russie. Mais et disons quand même sur l'Union européenne que, bien entendu, l'histoire de la négociation d'adhésion est une charade, tout le monde le sait. Jamais la Turquie n'a été aussi loin de l'Europe et des critères de Copenhague qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc personne ne croit à ce processus. C'est aussi une variable d'ajustement. Et la Russie, c'est un ami, mais c'est un faux ami. On a eu des incidents il n'y a pas très très longtemps. La Russie soutient mordicus Bachar el-Assad à Damas, qui était naguère il n'y a pas si longtemps l'ennemi juré d'Erdogan. Je veux dire, il va falloir des compromis dans tout ça. Avec la Russie, le compromis, ça va être Bachar. Et avec les Américains, le compromis, ça va être les Kurdes. On va sans doute voir un jeu à variables multiples se nouer dans les mois qui viennent, dans laquelle il faudra trouver pour Erdogan un modus vivendi avec Washington, et ce sont les Kurdes qui en payeront le prix, et avec Moscou, et c'est Bachar, sans doute, ou peut-être, qui en payera le prix de son côté. Mais le jeu est encore très, très, très ouvert, et la liberté de manœuvre de M. Erdogan dans tout cela est probablement moindre que ce que l'on a tendance à penser.
Je vous remercie, l'heure a sonné de notre dernière séquence, la séquence des brèves. Je vais l'ouvrir à propos d'un livre qui s'intitule « L'indicible de A à Z » et qui apparaît aux éditions du Seuil, un livre de Georges Salines. Il se trouve que, à l'égard de ceux qui ont perdu un proche dans les attentats de 2015 et de 2016, la compassion n'est pas seulement un impératif moral, c'est un besoin intime, un besoin que nous ressentons, un besoin de prendre notre part du fardeau de ces événements, de ne pas les laisser supporter par ceux-là seuls qui les ont subis. Mais quelle est cette part et comment la prendre ? Georges Salines est de ceux qui ont basculé dans un autre monde le soir où il a appris que sa fille, Lola, ne reviendrait pas du Bataclan. Il a basculé dans un autre monde, mais il est resté dans le nôtre. Il s'est fait passeur. Plus précisément, il a écrit une passerelle entre ces deux mondes sous la forme d'un abécédaire, l'indicible de A à Z, comme je l'ai dit, aux éditions du Seuil. D'absurde à zoo, d'ironie à religion, de psy à média, c'est une invitation au voyage entre ces deux mondes, ou plutôt une invitation à accompagner dans ces allers-retours entre la vie devant soi et la vie arrêtée, le père de Lola, qui dansait au Bataclan et qui repose, division 62, au cimetière du Père Lachaise. Le parti qu'a pris Georges Salines de ne rien abandonner, ni au chagrin, ni à la colère, ni à la sidération, ni à la fatalité, ni au malheur, ni même à la littérature, donne à ce partage quelque chose qu'on peut appeler le style, la tenue, la probité, la justesse, quelque chose qui nous institue dans le monde de l'indicible, puisqu'autrefois c'est le nom d'instituteur qu'on donnait à ceux qui étaient chargés d'instituer, d'établir leurs élèves dans le monde de la connaissance. Thierry Pêche.
Écoutez, c'est difficile après cet hommage vibrant, mais je veux néanmoins vous recommander le livre « Éloge du compromis » de Henri Weber aux éditions Plon. Alors Henri Weber est un intellectuel en politique, on pourrait dire, ancien sénateur, ancien député européen, mais aussi docteur en philosophie et en sciences politiques. Et il nous donne ici un travail remarquable parce qu'il poursuit les travaux qu'il avait déjà entamés sur les formes contemporaines de la social-démocratie en allant un cran plus loin. Il nous dit quoi ? Il nous dit, voilà, la social-démocratie, elle se définit par les formes de compromis qu'elle recherche. Entre 45 et 75, elle a cherché des compromis offensifs. Entre 75 et 2000, elle a été contrainte d'imaginer des compromis défensifs. Et aujourd'hui, elle doit trouver des compromis d'adaptation à la mondialisation et à la numérisation. Et ces compromis ne peuvent se faire que dans le cadre européen. Or, l'Europe est en crise. Et voilà le cœur du drame dans lequel nous nous trouvons. C'est vraiment un livre très éclairant. Et pour ceux qui seraient tentés de faire des bilans un peu rapides ou excessifs de la période qu'on vient de vivre, ce livre leur donnera également quelques raisons de nuancer leurs propos.
François Bujon de l'Étang.
Moi, je voudrais recommander un roman tout à fait remarquable de Julian Barnes, écrivain britannique bien connu, auteur du Perroquet de Flaubert ou de l'Histoire du monde en 10 chapitres et demi, dont le dernier livre, traduit en français « Le fracas du temps », s'appelle en réalité « The Noise of Time » en anglais, a été publié au Mercure de France. C'est un roman admirable, merveilleusement écrit, qui retrace de façon romancée le destin du compositeur soviétique Dmitri Shostakovich, et qui, à travers le destin personnel de Shostakovich, qui, pour pouvoir continuer à produire sa musique, a dû compromettre un peu misérablement avec le pouvoir soviétique, analyse en réalité une réflexion très riche sur les rapports de la création artistique et du totalitarisme. Comment un artiste, dans un environnement totalitaire, peut-il garder son intégrité artistique? Comment peut-il obtenir qu'on le laisse tranquille et qu'on le laisse travailler, ce qui était au fond l'unique souci de Shostakovich? Et comment peut-il éviter d'être conduit pour survivre et pour pouvoir continuer à produire à des compromis déshonorants, ce que Shostakovich a dû admettre? Le livre est admirable.
Michaela Wiegel.
L'agonie de la France, c'est le titre du livre que je recommande vivement, écrit par un journaliste espagnol qui s'appelle Manuel Chavez Nogales, qui en 36 a dû quitter l'Espagne, il était républicain, et 4 ans plus tard, il témoigne donc de la capitulation de la France. Et c'est un livre qui vient un peu en complément de L'étrange défaite, puisque c'est une interrogation très profonde, comment les Français ont pu si facilement abandonner l'esprit français et tout ce qui représentait aux yeux du monde la liberté et la démocratie. Et il montre comment ce drôle de guerre a amené non seulement les élites, mais aussi la majorité des Français à se s'adapter aux circonstances sans défendre les valeurs démocratiques. Et je trouvais ça un rappel assez important aujourd'hui.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, je voudrais recommander ce livre qui est paru il y a quelques mois de Riyad Satouf. C'est une bande dessinée en 2 volumes, parue chez Alary Éditions. L'Arabe du futur, une jeunesse au Moyen-Orient. Le premier volume, c'est 1978-1984. Le second, c'est sur 85. Et je trouve que c'est un livre... Alors, c'est un graphisme assez minimaliste qui correspond bien à l'impression de relative pauvreté de cette vie d'un franco-arabe, de mère française et d'un père arabe qui vit soit en Libye, soit dans la Syrie d'Hafez el-Assad. Et c'est un témoignage extrêmement poignant, extrêmement mélancolique, extrêmement dur en réalité, mais chargé de tendresse, de sympathie par ailleurs, de l'expérience de ces personnes si décisives aujourd'hui qui sont à la charnière de 2 civilisations, d'un Moyen-Orient qui apparaît comme désespérément pauvre et affligeant, et un Occident qui apparaît comme, je veux dire, outrageusement tentateur et riche. Et cette espèce de situation intermédiaire, au moment où nous avons passé notre été dans des psychodrames absolument absurdes sur les tenues vestimentaires à la plage, je pense que c'est très éclairant d'avoir ce regard sur cette enfance partagée d'un homme qui doit avoir aujourd'hui entre 45 et 50 ans, qui est donc en pleine force de vie et qui représente ce rapport entre les 2 civilisations.
Et je vous rejoins tout à fait, notamment dans le fait qu'il y a, comme on dit maintenant, de manière un peu cuisse, mais il y a plusieurs niveaux de lecture du livre. Il y a d'abord, au fond, le charme de ce dessin dont vous avez dit le minimalisme et des personnages qu'il décrit. Et puis ensuite, il y a cette chose beaucoup plus mélancolique ou beaucoup plus amère dont vous avez également parlé. Vous avez rendez-vous avec Alain Crugère, qui reçoit Bertrand Gautreau, qui est un vigneron en Champagne. Son émission s'intitule « Des cèpes, un sol, de l'eau et des bulles », comme vous savez. C'est la période de parler des différentes vendanges et récoltes. C'était donc l'esprit public. Ah non, je voudrais remercier quand même les auditeurs qui nous ont écrit pendant l'été à propos des émissions thématiques et dont ils ont bien voulu nous dire beaucoup de bien. Et également, je dois dire, puisque François Bujon de l'Étang parlait de Shostakovich, j'avais eu l'occasion de parler de Vassili Grossman et de la du plaisir, de la force de ce livre que j'avais relu. Et j'ai reçu de beaucoup d'auditeurs des remerciements de leur avoir indiqué ce livre de Grossman,
Vie et Destin. Lisez Vie et Destin.
c'est un des grands livres du XXe siècle.
Je voulais en remettre une couche, si j'ose dire. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc Jean Reynaud, préparée par Augustin Bernard Roudex et Mathieu Farizier, avec à la technique Élise Leu. Vous êtes priés de vous présenter la semaine prochaine, si vous le voulez bien, à la même heure, sur cette même chaîne, pour une nouvelle édition de L'Esprit public.